BFM Business partenaire.
BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire, le Boston Consulting Group, le BCG. Et on va parler du spatial et du spatial européen. Oui, on vous parle souvent du spatial américain, hein, suivez mon regard. Et bien là, le spatial européen, le temps du rebond. Cette semaine a lieu à Paris la World Space Business Week, hein, l'occasion un peu de faire le point sur tout ce qui se passe dans cet univers. Et justement, on va en parler avec nos deux experts et très experts notamment, puisque on reçoit, très content de recevoir Stéphane Israël. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes partenaire au BCG en charge des activités spatiales, mais évidemment, et sur BFM Business en l'occurrence, on vous a connu pendant plus d'une dizaine d'années, hein, en tant que CEO d'Ariane Espace de 2013 à 2024. Donc, voilà, vous connaissez bien parfaitement tout cet univers. Et un autre expert avec nous, Éric Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Éric, donc, partenaire associé directeur au BCG, spécialisé justement dans l'accélération des programmes de R&D dans notamment l'aérospatiale et la défense. Alors, juste pour commencer, Eric, brièvement, l'Europe spatiale, alors oui, on connaît Ariane Espace, on connaît Eutelsat, on connaît le CNES, l'ESA, mais on est en train de voir aussi toute une multitude de petites entreprises. Comment on pourrait définir un peu ce spatial européen?
Alors, c'est vrai que c'est pas facile de le définir, parce que c'est très foisonnant, et surtout aujourd'hui. Et donc, une bonne façon de l'attraper, je trouve, c'est de le regarder de manière hyper agrégée. Quand on fait la somme de tous ces acteurs, à la fin, on arrive à la troisième puissance mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Alors, puissance, c'est un gros mot, d'accord, il faudra un peu le définir, mais ça permet déjà de se situer. On est vraiment très sérieux en Europe sur ce secteur. Je pense qu'on peut en être vraiment fiers. Et donc, puissance, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Pour moi, il y a un peu deux axes. Il y a d'abord le poids de la puissance.
Oui.
On est un continent qui investit. On met 17 milliards d'euros l'année dernière de manière agrégée quand on prend toutes les agences, l'Agence spatiale européenne, le CNES, mais aussi toutes les agences militaires. Il y a beaucoup de programmes militaires, donc la Direction générale de l'armement, etc. Voilà, 17 milliards de dollars financés. Et quand on regarde ce que tout ça, ça nous a apporté dans le temps, sur les 10 dernières années, c'est quand même une petite centaine de lancements. Donc, on met beaucoup d'objets en orbite. Donc, on est très sérieux. Rien que par notre poids. Mais il y a aussi autre chose où on est très sérieux, c'est notre savoir-faire. Ça, on peut en être vraiment particulièrement fier parce que c'est pas un poids non plus démesuré, on y reviendra peut-être un peu après. Mais avec 65 000 personnes qui produisent des fusées et des satellites, on arrive à démontrer, quand on le veut, qu'on sait être les meilleurs du monde sur tous les segments de la chaîne de valeur du spatial.
Et puis, on sait fabriquer des satellites, on sait fabriquer des fusées, sait financer aussi, on sait financer tout ça.
Imaginez des programmes hyper compliqués derrière ça, comme la sonde Rosetta, par exemple, vous en avez tous entendu parler. La première fois qu'on a posé un objet de l'humanité sur une comète, c'est l'Europe qui a fait ça, c'est assez incroyable.
Il y a ces grands projets, hein, Galileo, Copernicus, évidemment Ariane.
Exactement, et si on doit mettre des chiffres, par exemple, un Galileo, c'est, quand on est dans les meilleures configurations, 10 fois plus performant que le GPS. On le dit pas assez aujourd'hui. Copernicus, c'est 100% de la data de référence sur le climat pour la Terre. Donc, on est vraiment là.
Et qui existe depuis quelques années, hein, Copernicus.
C'est plusieurs satellites Sentinel qui ont été mis en orbite pour arriver à cette performance. C'est vraiment remarquable.
Alors, et pour autant, quand on regarde un peu les acteurs européens, on est quand même loin derrière les États-Unis. Alors, les Chinois, on suppose, on voit comment ils avancent, mais bon, il y a pas mal de secrets aussi derrière les Chinois, mais on a l'impression de pas jouer dans la même catégorie.
Alors, c'est sûr que quand on regarde la partie poids de la puissance, là, vraiment, on est dans une autre ligue. Quand on regarde, alors, c'est vrai que pour la Chine, c'est dur de faire l'agrégation que je vous ai faite tout à l'heure, donc on va plutôt parler des États-Unis, où on peut dire qu'ils sont à peu près 5 fois plus gros que nous, sur à peu près toutes les dimensions, que ça soit du financement, je parlais de 17 milliards, eux, c'est 80 milliards. Ou alors en termes de lancement aussi, c'est plus de 530 lancements et ça accélère fortement. Il y en a eu 140 l'année dernière. Mais surtout, peut-être ce qui est intéressant, c'est de sortir du côté agrégé là versus les États-Unis. Le vrai défi pour nous, c'est que quand on regarde les financements des acteurs individuels du spatial européen versus les acteurs individuels du spatial aux États-Unis, là, il y a un écart abyssal qui se crée. Parce que forcément, en Europe, il y a 23 pays membres dans l'Agence spatiale européenne. Il y a une vingtaine de gros acteurs, des centaines de petits acteurs. Derrière les 17 milliards, ça ruisselle forcément un petit peu moins qu'un gros SpaceX, typiquement, on va peut-être en parler, financé par la NASA à hauteur de 6 milliards l'année dernière. C'est 2 fois le budget du CNES, par exemple. C'est énorme.
Stéphane, Israël, donc le défi est de taille. Mais justement, vous étiez patron d'Ariane Espace pendant plusieurs années. Vous êtes resté là au sein du BCG sur cet univers. Ça veut dire que vous êtes quand même optimiste quand même sur notre capacité, la capacité spatiale européenne à faire des choses.
Oui, je suis optimiste sur la capacité de rebond. C'est le titre de notre émission du spatial européen. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est un acteur aux États-Unis qui a disrupter toute la chaîne de valeur, aussi dans son pays d'ailleurs, hein, face à des acteurs traditionnels, et singulièrement en Europe. Parce que en fait, aux États-Unis, depuis l'émergence de SpaceX dans les années 2006, et puis surtout à partir de la décennie 2010, il y a un acteur qui construit des satellites, qui les lance et qui les opère. Mm-hmm. Et ce qu'on a vu depuis 10 ans, c'est que Ariane a d'abord été touché, je suis bien placé pour le savoir, les constructeurs de satellites ensuite, parce qu'en fait, ils construisaient des satellites qui étaient devenus moins à la mode, des gros satellites en orbite géostationnaire, alors qu'on allait de plus en plus vers des satellites en orbite basse. Le fournisseur de services par satellite Eutelsat après, et donc on voit que toute la chaîne de valeur dans les 10 dernières années a été touchée. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que cette chaîne de valeur, elle s'est réinventée, elle a réagi, et elle a réagi à la fois en mobilisant ses leviers propres, industriels, ce sont des entreprises privées, mais aussi en sachant travailler avec la puissance publique, parce que fondamentalement, l'espace, c'est un partenariat public-privé. Et donc, on peut prendre quelques exemples. Ariane a rebondi en réussissant les premiers vols d'Ariane 6, alors que je peux vous dire que l'histoire d'Ariane 5 avait été très compliquée, se réinvente avec un nouveau lanceur qui s'appelle Maya. Du côté des constructeurs de satellites, on en a parlé tout le week-end qui est passé, ça a été, il y a en ce moment une grande effervescence autour peut-être d'un nouveau champion européen qui pourrait réunir Airbus, Thales et l'italien Leonardo. Du côté de Telsat, il y a eu une recapitalisation impulsée par l'État français cet été à hauteur de 1,5 milliard. Et donc, on voit que la chaîne de valeur européenne s'est réorganisée. Et justement, par rapport à ce que disait Eric, pour la chaîne de valeur européenne, l'objectif, c'est pas d'être aussi gros que SpaceX. L'objectif, c'est de délivrer les meilleurs services avec un volume accessible qui est le nôtre et qui est d'ailleurs assez lié au fait que les financements publics, la commande publique n'est pas du même niveau. Il n'y aura pas 150 lancements Ariane, il y en aura 10. Il n'y aura peut-être pas 42 000 satellites de Eutelsat en orbite, mais il y en aura aujourd'hui où il y en a déjà 650. Donc, à notre échelle, ce qu'il faut, c'est exister et venir avec les meilleures solutions.
Et on le voit, il faut être optimiste, justement, Eric, parce qu'on voit plein de belles pépites qui sont en train de naître, hein, avec qui font pour certaines de belles levées de fonds. Je pense à The Exploration Company avec Hélène Ubi, Usine Labs avec sa constellation de surveillance maritime, ExoTrail, hein, avec un Space One. Voilà, ça bouge beaucoup, hein, de ce domaine-là.
Ah oui, c'est vraiment c'est passionnant. Franchement, à suivre, c'est presque trop pour un seul homme. on essaie de quand même rester à la page. Ce qui est à la fois intéressant et en même temps un peu risqué derrière ça. Le côté intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux modèles opératoires qui apparaissent. Ces entreprises, elles viennent pas juste avec de l'énergie, elles viennent aussi avec des nouvelles approches. On va faire plus de prototypage pour développer, on va plus recourir au financement privé, ça a beaucoup progressé en Europe, on a quasiment...
Même l'image, hein, auparavant, on se dit, oh, l'espace, c'est pas pour... Enfin, pour les financeurs, l'espace, c'est pas pour moi, ce sont des grands projets à 15, 20 ans. Non, on voit qu'aujourd'hui, bah si, ça peut être...
Voilà, avec des boucles beaucoup accessibles. Plus courtes de retour sur investissement. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais par contre, ça crée, je pense, deux biais cognitifs. Il y en a un qui est dans le fait de imaginer un antagonisme entre les anciens du spatial et les nouveaux. Et pour le coup, en Europe, ce n'est pas du tout le cas. Là, je peux vraiment vous le dire, ce n'est pas la réalité de ce qu'on voit. On voit beaucoup de fleurons industriels qui sont eux-mêmes les acteurs de la disruption et qui sont ceux qui vont apporter, par exemple, des briques technologiques. Tu parlais, par exemple, de Maya Space, qui est une filiale du groupe Airbus, mais elle travaille sur des briques technologiques et notamment des briques moteurs. C'est hyper important pour les fusées qui ont été développées par le groupe. Donc là, il y a vraiment des liens très, très forts entre les deux mondes, les historiques fleurons industriels et le New Space. C'est vraiment ensemble. Et en plus, il y a maintenant, on va dire, une bascule qui se crée pour permettre à ces acteurs de leverager des assets qui existent. Donc là, ça va plutôt être les États qui les fournissent. Donc, par exemple, je parlais du militaire, la Direction Générale de l'Armement, elle va fournir des sites d'essai à Hyperspace pour pouvoir tirer depuis des bases utilisées normalement par les militaires.
Et il y avait un point sur lequel vous êtes rapidement passé tout à l'heure, mais qui est important, c'est les données aussi. Parce que justement, quand on parle d'espace, on pense fusée, les nouveaux matériaux, des expériences. Mais il y a tout un tas de données qui peuvent justement être exploitées. Alors, on parlait de Copernicus tout à l'heure, Galileo, et qui peut être aussi une source de revenus et de nouveaux services aussi importants.
Oui, et alors, on en parlait brièvement aussi tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de fusion. En Europe, on s'est montré qu'on sait utiliser de la donnée spatiale et de la donnée terrestre pour pouvoir en tirer des applications à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Alors, grâce à Copernicus, il y a une montagne de données qui est envoyée, d'ailleurs en libre accès, pour le monde entier. C'est un vrai effort que fournit l'Europe pour l'humanité. qu'on peut maintenant utiliser pour plein d'applications. La qualité de l'eau, les mouvements des masses d'air chaud, etc. Mm-hmm. Les émissions de CO2, tout ça, maintenant, on peut beaucoup mieux le tracer, le comprendre. Et d'ailleurs, ça m'amène peut-être à un message important, je pense. C'est qu'on souvent, on rêve, quand on dit New Space, c'était le mm-hmm. deuxième biais cognitif dont je voulais parler, on rêve d'un nouveau SpaceX. C'est pas notre combat. Nous, en Europe, on cherche plutôt à trouver les quelques angles où là, vraiment, on va avoir un avantage comparatif. La data, par exemple, c'en est un.
Alors, la data en est un. Il y a aussi ce projet IRIS, IRIS Square, IRIS Carré, on va le dire en français. C'est une constellation de 300 satellites. Alors, parfois, on se dit, mais attendez, Starlink, ils en ont ils vont projeter des dizaines de milliers de satellites. Est-ce que ça vaut le coup quand même de faire IRIS Carré? Mais oui.
Oui, bien sûr.
En termes de souveraineté.
On a besoin d'une constellation qui s'appelle Iris Carré pour assurer un certain nombre de services souverains en faveur des gouvernements ou des armées européennes. C'est le troisième grand projet de la Commission européenne, mm-hmm. après Galiléo et Copernicus.
L'échéance est 2030. Hein,
l'échéance est à peu près 2030, ouais. effectivement. C'est un partenariat public-privé. Ça coûte un peu plus de 10 milliards. L'Union européenne met un peu plus de la moitié et les opérateurs de satellites, Eutelsat, Hispasat et SES mettent un peu moins de la moitié. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir une constellation à la fois en orbite moyenne et en orbite basse pour assurer des services souverains et en plus aller sur les marchés, marchés aériens, marchés maritimes. Mais là encore, on voit bien que l'enjeu, c'est pas de faire comme d'autres, l'enjeu, c'est de construire à notre échelle quelque chose qui tienne la route.
Et puis, une toute dernière question très rapidement, il y a l'effet de durabilité, impact environnemental. Ça aussi, c'est un point sur lequel nous, on peut jouer.
Ah oui, complètement. Et on peut jouer aussi en aidant à bien poser le débat. Je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus où on se dit, en fait, l'espace est encombré. Si on faisait la somme de tous les satellites et tous les débris qui sont en orbite, c'est 1 km². Ouais. C'est vraiment rien du tout dans l'immensité de l'espace. Par contre, le code de conduite qu'on se donne, comment est-ce qu'on va vraiment gérer nos orbites pour pas créer de pollution lumineuse, pour pas créer de risque de collision, ça, c'est très difficile. Et nous, en Europe, on sait le tracer. On sait légiférer. Donc là, on peut vraiment aider à avancer et les scientifiques et le reste du monde nous attendent.
Et vous me confirmez, Stéphane Israël, que oui, les industriels dont vous faisiez partie, mais là que vous conseillez aujourd'hui, travaillent aussi sur cette...
Les industries...
On a l'impression, quand on voit les lancements américains, on a l'impression qu'ils s'en fichent un peu.
Non, enfin, peu importe. En tous les cas, les industriels sont très engagés. Ariane 6 ne laisse plus son dernier étage dans l'espace. Elle le fait rentrer sur Terre. Donc, elle laisse derrière elle un espace propre. Il y a Copernicus. Et puis, demain, peut-être qu'on amènera de l'hélium 3 de la Lune pour avoir l'énergie. Peut-être qu'on fera des data centers dans l'espace. On a besoin d'un espace durable et on a besoin effectivement d'industriels engagés au service de l'environnement.
Et voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire autour de ce spatial européen. Le temps du rebond est venu et il est déjà bien lancé avec les acteurs. Merci Stéphane Israël, partenaire au BCG. Et donc, vous avez dirigé pendant 11-12 ans Ariane Espace. Et puis Éric Fournier, spécialisé sur ce domaine de l'aérospatiale et de la défense au sein du BCG. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. N'oubliez pas les replays, les podcasts, si vous voulez revenir en arrière sur cette émission ou toutes les autres que nous vous proposons chaque semaine.
BFM Stratégie sur BFM Business.